êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est les conversions dans les actes, sixième partie. Dans cette série de leçons, nous examinons tous les récits des conversions dans le livre des Actes. Certains récits sont pleins de détails. D'autres, comme celui que nous verrons aujourd'hui, ne sont qu'un résumé très bref. Cependant, même les récits les plus brefs peuvent nous instruire quand nous prenons le temps d'examiner ce qui les précède ou ce qui les suit. En Actes 5, verset 14, nous lisons « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. » Rappelons-nous d'abord que le mot « croire » dans une telle phrase est synonyme de « se convertir ». Ce n'est pas que la conversion n'est rien de plus ni de moins que le fait de croire ou de reconnaître que l'Évangile est vrai. Non, la conversion comporte, en plus de la foi, la repentance du péché, la déclaration de sa foi devant les hommes et le baptême d'eau pour le pardon des péchés. Mais le mot « croire » est souvent employé comme le résumé de tout cela. Il n'est pas rare, non seulement dans la Bible, mais aussi dans le langage courant, de nommer une partie de quelque chose pour parler de l'ensemble. Par exemple, on dit qu'il faut payer 100 francs par tête pour entrer, ce qui veut dire 100 francs par personne. En effet, ce ne sont pas seulement les têtes qui entrent dans la salle, mais les corps tout entiers. Le mot « tête » dans ce cas désigne plus que la tête. En parlant du salut, on cite parfois une seule condition du salut. Mais il est sous-entendu que toutes les autres conditions doivent être remplies aussi. Quand un verset biblique dit que tant de personnes furent baptisées, sans parler de leur foi, nous supposons avec raison que ces personnes avaient cru. Se faire baptiser sans croire à l'Évangile n'a pas beaucoup de sens. Par contre, croire à l'Évangile sans obéir par la repentance et le baptême n'est pas vraiment croire. C'est avoir une foi morte, qui ne sauve pas. Quand un passage dit que telle personne a cru à l'Évangile, sans que d'autres versets disent qu'elle n'a pas obéi, nous comprenons que cette personne a fait tout ce qui est nécessaire à la conversion. Ainsi donc Luc, l'auteur du livre des Actes, nous apprend en Actes 5, verset 14, qu'il y avait de nombreuses conversions dans la période de temps qu'il décrit. Cependant, il ne relate aucune de ces conversions individuellement. Alors que pouvons-nous apprendre de ce verset? Pour en tirer des leçons, il nous faut regarder le contexte. Le verset 12 de ce même chapitre nous dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » Les versets 15 et 16 nous informent qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Il y avait sans doute un lien entre les miracles que Luc a relatés et la conversion d'un nombre croissant de personnes. En effet, les miracles servaient à appuyer la parole que les apôtres prêchaient. En Marc 16, Jésus a parlé aux apôtres des miracles qu'ils feraient en son nom s'ils avaient la foi. Mais quelle était la raison d'être de ces miracles? Marc 16, verset 20 nous le dit. Les apôtres s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Hébreux 2, verset 3 et 4 va dans ce même sens. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. L'Évangile était un nouveau message que l'on prétendait être de Dieu, mais n'importe qui pourrait se lever et parler au nom de Dieu, même si Dieu n'avait pas parlé. Par ces miracles extraordinaires, Dieu faisait connaître à tous que les apôtres ne parlaient pas de leur propre chef. Leur prédication était véritablement la parole de Dieu. Les miracles n'existaient pas pour que toute maladie soit bannie de la terre. Ils attestaient l'authenticité de l'Évangile, et de plus en plus de personnes y croyaient. Mais le contexte d'Actes 5, verset 14, contient une autre leçon en plus de celle qui concerne le rôle des miracles. Il s'agit d'une leçon qui se rapporte à la discipline. Le chapitre 5 commence par cette histoire. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Ananias et Saphira ont vendu une propriété. Ils ont gardé une partie du prix de la vente, ce qu'ils avaient le droit de faire, et ils ont apporté à l'Église l'autre partie de l'argent. Jusqu'à ce point, il n'y avait pas de problème. Là où ils ont péché, c'est dans le fait de mentir au sujet de leurs actions. Ils se sont mis d'accord pour dire qu'ils donnaient tout ce qu'ils avaient reçu de la vente. Ils mentaient ainsi aux hommes, mais aussi à Dieu. Quand Ananias se présenta avec l'argent et le mensonge, Dieu l'a frappé de mort. La peine peut nous sembler trop sévère ou précipitée. Mais Dieu est mieux placé que nous pour mesurer la gravité des actions. C'est Dieu lui-même qui frappa cet homme de mort. Ce n'est donc pas la peine de juger l'apôtre Pierre ou de parler d'un abus de pouvoir apostolique. Quand Saphira, la femme de celui qui venait de mourir, entra et dit le même mensonge, ce qui prouve leur complicité et préméditation, Pierre annonça qu'elle mourrait sur le champ. Encore, cela ne signifie pas que c'est Pierre qui le voulut ou qui l'effectua. C'était Dieu. Le Nouveau Testament n'autorise nulle part aux chrétiens de forcer les hommes à se convertir au christianisme, ni de tuer ou de punir physiquement des chrétiens qui refusent de suivre l'enseignement du Christ. Il est vrai qu'au temps de l'Inquisition, il y a quelques siècles, l'Église catholique employait ses méthodes contre ceux qui n'acceptaient pas sa doctrine. Mais rien dans la Bible ne permet d'agir ainsi. Dieu, en tant que créateur et souverain de l'univers, avait le droit de prendre la vie d'Ananias et sa femme. L'Église n'a pas ce droit. Il y a néanmoins une sorte de discipline ou correction que l'Église est appelée à administrer, et plusieurs passages bibliques en parlent. 1 Corinthiens 5, verset 11, par exemple, dit ceci. « Je vous ai écrit de ne pas avoir de contact avec un homme qui, tout en se donnant le nom de chrétien, serait immoral, envieux, adorateur d'idoles, calomniateur, ivrogne ou voleur. Vous ne devez même pas prendre un repas avec un tel homme. » L'Église a le devoir de s'éloigner de cette manière d'un membre qui ne cherche pas à mener une vie chrétienne. Elle doit le faire dans l'espoir d'amener le coupable à se repentir. Elle doit le faire aussi pour décourager le péché parmi les autres membres et pour faire comprendre aux non-chrétiens que l'Église n'approuve pas le péché. L'apôtre Paul a exhorté Tite d'être un modèle du bon comportement chrétien afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Certaines églises hésitent ou négligent de corriger leurs membres qui s'enfoncent dans le péché, croyant que ce serait une barrière à la croissance. Elles craignent de perdre des membres ou décourager les gens de se convertir. Elles ne voient pas que si les gens ne sont pas prêts à se détourner de leur péché, on ne peut même pas parler de conversion. Mais ces églises ne veulent pas trop exiger parce que les gens risquent de préférer leur péché à l'appartenance à l'église. L'histoire d'Ananias et Saphira montre que cette crainte n'est pas vraiment fondée. Dieu a fait à ces deux hypocrites pire que ce qu'il permet à l'église de faire. Il leur a appliqué la peine de mort, au lieu de simplement dire aux autres chrétiens de ne plus s'associer à eux. On aurait pu s'attendre à ce que les non-chrétiens aient peur d'aller à l'église après la mort de ce couple. Au contraire, notre texte d'aujourd'hui nous dit que le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Il en sera de même aujourd'hui. Ceux qui désirent sincèrement faire la volonté de Dieu reconnaissent que l'Église doit combattre le péché dans ses propres rangs et être une lumière au monde. Elle ne doit pas ressembler au monde par un comportement indigne du nom du Christ. Loin d'être un obstacle, la sainteté est nécessaire. C'est l'hypocrisie et l'immoralité de tout genre qui constituent le vrai obstacle à la croissance de l'Église. Le message de l'Évangile est toujours vrai, mais que le message ne soit pas rejeté à cause du péché des messagers.
Salut le...